Chapitre 8. Max se rasa et rinça l'ersatz de savon à barbe. Après s'être essuyé le visage, il se tourna vers Éponine qui allaitait Marius, assise sur le lit.
« Je me sens nerveux, » avoua-t-il en riant. « Je n'ai encore jamais rencontré de maître optimiseur. »
« Ça ne te ressemble guère ?»
fit-elle en souriant. Il observa sa femme et son enfant pendant quelques secondes. Le bébé gazouillait en tétant.
« T'aimes ça, pas vrai ?»«
C'est un plaisir incomparable. J'ai l'impression de participer à, je ne sais pas, une sorte de communion. »
Il secoua la tête.
« Hier, quand je changeais Marius, j'ai pensé que nous étions comme des millions d'autres couples. Mais nous vivons dans une ville extraterrestre gouvernée par... »
Il ne termina pas sa phrase.
Ali a changé depuis une semaine. Elle a perdu son entrain et parle souvent de Robert.
Cette exécution l'a bouleversée. Je me demande si l'horreur de la violence est innée chez les femmes. Quand Clyde a épousé Winona et qu'elle est venue s'installer à la ferme, elle nous a vu égorger un cochon et a blêmi. Elle n'a rien dit, note bien, mais on ne l'a jamais revue les fois suivantes.
Ali a été avare de commentaires,
déclara Éponine en plaçant Marius sur l'autre sein.
Ça ne lui ressemble guère.
Richard a interrogé Archie au sujet de cet incident. L'Octo a éludé les questions et n'a même pas confirmé ce que le docteur Bleu avait dit à Nicole au sujet de leur politique d'élimination.
Tu ne trouves pas ça effrayant? Elle lui a demandé de tout répéter plusieurs fois pour être sûre d'avoir compris.
C'est pourtant simple, même pour un plouc dans mon genre. Tout adulte dont la contribution à la colonie est inférieure aux ressources nécessaires à sa subsistance sera inscrit sur une liste d'attente. Si le bilan n'est pas positif à expiration d'un certain délai, il sera éliminé.
Selon le docteur Bleu, ce sont les optimiseurs qui prennent ces décisions.
Je sais,
fit Max en se penchant pour caresser le dos de son fils.
C'est pour ça que Nicole et Richard s'inquiètent. Il y a longtemps que nous vivons au crochet de nos hôtes. On peut se demander ce que nous leur avons rapporté.
Êtes-vous prêt, Max?
S'enquit Nicole, depuis le seuil.
Nous sommes tous dehors, près de la fontaine.
Max se pencha pour embrasser son épouse.
Vous n'aurez pas de problème?
Benji se débrouille tout seul et Patrick est devenu un spécialiste des enfants.
« Je t'aime, Ep !»
dit Max, en agitant la main. 5 chaises avaient été placées à leur intention dans le vestibule du secteur d'activité du maître optimiseur. Même après que Nicole eut expliqué le sens du mot « bureau » à Archie et au docteur Bleu, ces derniers avaient insisté sur le fait que le terme « secteur d'activité » convenait mieux au lieu où cet éminent personnage exerçait ses fonctions.
« Il sera en retard, »
dit Archie sur un ton d'excuse.
« Des imprévus l'obligent à s'écarter de l'emploi du temps préétabli. »«
Ce doit être sérieux, » fit remarquer Richard à Max. « La ponctualité est le propre des octopodes. » Les 5 humains attendirent d'être reçus, plongés dans leurs pensées. Le cœur de Naï s'emballait. Elle était à la fois inquiète et impatiente. Puis, un octopode vint les informer de l'arrivée imminente du maître optimiseur et de ses conseillers. Il leur ordonna de passer dans la pièce voisine, où, par des baies transparentes, ils purent assister aux activités qui se déroulaient autour d'eux. Richard avait l'impression d'être dans un poste de contrôle de centrale nucléaire. Il voyait des ordinateurs, des moniteurs et des techniciens partout. Il interrogea Archie sur la nature des opérations en cours, mais son ami n'eut pas le temps de répondre que 3 de ses congénères entraient dans la pièce. Les humains se levèrent. Archie leur présenta le maître optimiseur, le maître optimiseur adjoint et l'optimiseur de la sécurité. Les 3 octos tendirent un tentacule pour leur serrer la main. Puis Archie leur fit signe de s'asseoir et le maître optimiseur s'adressa à eux sans plus attendre. «
Vous avez sollicité l'autorisation de retourner auprès de vos semblables
Cette requête ne nous a guère surpris, car il est fréquent que les représentants des espèces les plus intelligentes et émotives se sentent désorientés sitôt coupés de leur environnement familier. Nous avons pour cela décidé de vous fournir des informations complémentaires à même d'influencer votre décision. Archie leur demanda de les suivre et ils traversèrent une pièce identique aux précédentes, puis entrèrent dans une salle rectangulaire où une douzaine d'écrans occupaient tout un mur. Nous surveillons de près ce qui se passe dans votre habitat, dit alors le maître optimiseur. Nous allons vous montrer des enregistrements d'événements récents. Les moniteurs s'allumèrent. On voyait sur chacun d'eux des extraits de la vie quotidienne des citoyens du Nouvel Éden. La qualité de l'image laissait à désirer, et les séquences ne duraient que quelques niais, mais leur sens ne prêtait pas à controverse. Les humains en restèrent muets. Sur un écran, Nakamura, vêtu en shogun, adressait un discours à une foule importante réunie sur la place de Central City. Il montrait le dessin d'un octopode, et malgré l'absence de son, il était évident qu'il exhortait la population à partir en guerre.
« Je veux bien être pendu !»
murmura Max.
« Regardez !» dit Nicole. « C'est El Mercado de San Miguel !»
Dans le plus pauvre des villages du Nouvel Éden, une douzaine de blancs et de jaunes au crâne ceint d'un bandeau de karatéka rouaient de coups quatre jeunes noirs et hispaniques. Deux policiers et une vingtaine de passants regardaient la scène, mais n'intervenaient pas. Quand tout fut terminé, Debiot, Tiasso et Lincoln allèrent prendre les corps brisés et ensanglantés pour les entasser sur le plateau d'un gros triporteur. Sur un autre écran, une foule élégante de blancs et d'orientaux arrivait à une soirée donnée dans le Vegas de Nakamura. Ailleurs, on voyait l'intérieur de la prison locale. Une jeune femme aux cheveux multicolores fut guidée vers une cellule abritant déjà deux occupants. La nouvelle venue sembla s'en plaindre, mais le policier la poussa à l'intérieur sans ménagement et éclata de rire. Puis il regagna son bureau, devant un mur où étaient affichées des photographies de Richard et de Nicole. On pouvait lire au-dessous « Forte récompense ». Nous avons sélectionné 48 séries de scènes classées par genre, dit finalement le maître optimiseur. Toutes datent de ces 8 derniers jours. Vous pourrez les visionner aussi longtemps que vous le voudrez, en parler entre vous et poser des questions aux octopodes qui vous ont accompagné. Je dois malheureusement aller vaquer à d'autres occupations, mais je sais que vous souhaiterez me revoir quand vous aurez terminé et je ferai en sorte de me libérer. Il repartit, suivi de ses assistants. Nicole se rassit. Elle était livide et Ali lui demanda
« Ça va aller, maman ?»«
Oui. Au début de la projection, j'ai senti une douleur dans la poitrine, mais c'est passé.
Veux-tu rentrer te reposer ? Demanda Richard.
Tu plaisantes. Je ne raterai ça pour rien au monde.
Ils visionnèrent les films muets pendant près de 3 heures. Il était évident que les citoyens du Nouvel Éden ne jouissaient d'aucune liberté individuelle et que leurs conditions d'existence étaient plus précaires que jamais. Nakamura avait consolidé son pouvoir et éliminé toute opposition, mais la plupart de ses sujets étaient désespérés et malheureux. Ils commencèrent par regarder les mêmes scènes, puis Richard fit observer qu'il manquait d'efficacité.
« Vous parlez comme un vrai optimiseur !»
dit Max, avant de reconnaître le bien fondé de la remarque. Cathy faisait une brève apparition dans une séquence. C'était la nuit, à Vegas, et des prostituées racolaient devant une boîte de nuit. Cathy en aborda une, lui parla, puis disparut. Richard et Nicole notèrent qu'elle était très maigre et demandèrent à revoir cette scène plusieurs fois. Une autre série avait pour thème l'hôpital de Central City. Malgré l'absence de bande-son, La pénurie de médicaments, de personnel et de matériel sautait aux yeux. Voir une femme basanée mourir au terme d'un accouchement douloureux les bouleversa. Des bougies éclairaient la salle et les appareils qui auraient permis de sauver la malheureuse avaient été débranchés. Robert Turner apparaissait dans la plupart de ses séquences. La première fois qu'elle le vit, Ali se mit à pleurer.
« Il est hagard et épuisé. Il n'a jamais su se ménager, »
dit-elle. Lorsqu'ils furent trop las pour continuer, Archie leur demanda s'il souhaitait parler à son supérieur.
« Pas maintenant, »
dit Nicole, qui exprimait le point de vue de tous.
« Nous avons besoin de temps pour tout assimiler. »
Sur le chemin du retour, Richard utilisa la dernière version de son interprète électronique pour faire à Archie une démonstration de traduction simultanée. L'octopode venait de se déclarer impressionné quand Richard dit d'une voix forte pour permettre à ses compagnons de bien entendre.
« Au fait, je présume que vous n'êtes pas autorisé à nous dire comment vous avez obtenu ces enregistrements. »
« Ces images ont été prises par les quadroïdes volants, » répondit Archie sans hésiter. « Une espèce microscopique plus performante. »
Nicole traduisit ses propos à Nai et à Max.
« Bordel de merde !»
jura ce dernier en se levant pour aller s'isoler à l'autre extrémité du véhicule.
« Je ne l'ai jamais vu si tendu, » dit Richard à Nicole.
« Moi non plus. »
Ils faisaient une marche après avoir dîné avec leurs proches. Une luciole solitaire restait au-dessus d'eux pour leur énième aller et retour de l'extrémité de l'impasse au rond-point.
Tu crois qu'il changera d'avis?
Je ne sais pas. Il n'a pas digéré que les octos surveillent tous nos actes. C'est pour cela qu'il tient tant à regagner le Nouvel Éden avec sa petite famille, bien que nous ayons décidé de rester.
As-tu parlé en privé à Éponine?
Avant-hier, quand j'ai ausculté Marius, elle m'a demandé si j'avais informé Archie de leur intention de partir. Elle semblait terrorisée.
Sans s'arrêter, Richard prit un mouchoir et s'essuya le front.
La situation est différente désormais.
Les octos ne nous ont pas fait visionner ces extraits uniquement pour nous démontrer que tout n'est pas rose dans notre habitat. Ils savaient comment nous réagirions après en avoir assimilé le sens.
Ils revinrent vers leur maison. Au tour suivant, Richard demanda « Je présume que des quadroïdes enregistrent aussi cette conversation. »
« Cela va de soi. Nos hôtes ont également voulu nous informer que nous ne pouvions pas avoir de secret. Fuir est hors de question. Nous sommes à leur merci. Mais j'ai toujours confiance en eux, même si je suis la seule. Ils nous autoriseront à retourner là-bas un jour. »
Subvenir à nos besoins pendant si longtemps sans rien obtenir en retour ne leur ressemblerait guère.
Non, ils cherchent un moyen de rentabiliser leur investissement.
Ils pressèrent le pas pour le tour final, puis s'arrêtèrent à la fontaine afin de se désaltérer.
« Comment te sens-tu ? »
voulut savoir Richard.
« En pleine forme. Pas de douleur, pas d'essoufflement. Hier, lorsque le docteur Bleu m'a examiné, elle n'a trouvé qu'un cœur affaibli par les ans.
Je me demande quel rôle nous sera attribué au sein de cette société symbiotique,
déclara Richard lorsqu'ils furent rentrés.
Nicole lui lança un regard oblique. N'étais-tu pas moqué de moi quand j'ai mis en doute leur altruisme? Comment peux-tu être certain de connaître leur but?
Je ne suis certain de rien, fit-il en souriant.
Mais ne doit-on pas présumer que des êtres appartenant à une espèce supérieure font preuve d'un minimum de logique?
Richard s'éveilla au milieu de la nuit.
Désolé de t'embêter, chérie, mais j'ai un problème.
De quoi s'agit-il?
Demanda Nicole en s'asseyant.
C'est embarrassant.
Tout a commencé juste après la fête de l'abondance. Je pensais que ça passerait, mais c'est de plus en plus douloureux.
« Allons, » fit-elle avec irritation.
« Viens-en au fait. De quoi parles-tu ? »
« Je ressens des brûlures à chaque fois que j'urine. »
Elle dissimula un bâillement derrière sa paume.
Ce qui est de plus en plus fréquent.
Oui. Comment l'as-tu deviné?
La prostate est le point faible de la jante masculine. Mets-toi sur le ventre, je vais t'ausculter.
Maintenant?
Après m'avoir réveillé à une heure indue, il ne te reste qu'à serrer les dents pendant que je vérifie mon diagnostic.
Le docteur Bleu et Nicole s'étaient réunis dans la maison des octopodes. Il y avait sur un mur 4 images prises par des quadroïdes.
On voit sur la gauche la tumeur telle qu'elle se présentait le jour où vous m'avez contacté,
disait le docteur Bleu.
Vient ensuite un fort grossissement de 2 cellules prélevées sur l'ex-croissance. Les anomalies que vous qualifiez de cancéreuses apparaissent en bleu. J'ai des difficultés à vous suivre. Vous n'employez jamais la couleur signifiant maladie quand vous vous référez au problème de Richard. Une maladie est un dysfonctionnement dû à un agent extérieur, tel qu'une bactérie ou un virus. Le dérèglement cellulaire relève d'un autre domaine. Le cancer de Richard est plus intimement lié au vieillissement que votre pneumonie ou votre gastro-entérite.
Elle tendit un tentacule vers la 3e image.
Ce cliché pris il y a 3 jours montre la tumeur après que nos agents microbiologiques ont répandu des produits chimiques dans la région concernée. L'excroissance a décru parce que la production de cellules malignes a été interrompue. Dans la dernière vue, prise ce matin, la prostate a une apparence normale.
Il est donc tiré d'affaire?
Nous ne connaissons pas suffisamment votre cycle cellulaire pour pouvoir l'affirmer. Il a des caractéristiques uniques propres aux espèces qui ont eu une évolution différente des êtres précédemment étudiés. Mais, en fonction de notre expérience, je dirais qu'une récidive est improbable.
Elle remercia sa collègue.
Ce serait merveilleux si la population de la Terre pouvait bénéficier de vos connaissances médicales.
Sur le mur, les images s'effacèrent.
Si j'ai correctement interprété ce que vous m'avez dit de votre planète, il en résulterait de graves problèmes sociaux,
rétorqua le docteur Bleu.
En admettant que les humains ne meurent plus de maladies ou d'anomalies cellulaires, leur espérance de vie s'allongerait considérablement. Notre espèce a connu cela pendant l'âge d'or de la biologie. Ce n'est qu'après l'optimisation qu'un équilibre a été trouvé. En l'absence d'une politique d'élimination et de reconstitution, une colonie d'êtres quasi immortels sombre rapidement dans le chaos.
Ces propos piquèrent au vif l'intérêt de Nicole. Il ne fait aucun doute qu'espace vital et ressources viendraient à manquer.
Mais j'avoue qu'entendre parler d'une politique d'élimination me terrifie d'autant plus que je suis une personne âgée. Au début, notre société ressemblait à la vôtre. Le pouvoir était entre les mains des plus vieux représentants de notre espèce. Quand la durée de notre existence a été prolongée, ils ont planifié les naissances sans s'atteler aux problèmes plus délicats posés par les improductifs. Mais le système s'est sclérosé et ses gérontocraties ont fini par s'effondrer.
C'est là qu'apparaît l'optimisation.
Oui, et dès que la population estime que l'intérêt général prévaut sur celui des individus, elle doit admettre que la solution optimale est une politique d'élimination planifiée. Archie pourrait vous démontrer à quel point il serait désastreux pour la collectivité de gaspiller ses ressources afin de subvenir aux besoins de citoyens devenus inutiles.
Nicole réfléchit aux phrases les plus importantes pour s'assurer qu'elle avait bien compris.
Je présume que même si votre vieillissement est retardé, un vieil octopode devient tôt ou tard une charge pour la communauté.
C'est exact. Nous pourrions prolonger la vie de quelqu'un à jamais, mais il faut tenir compte de 3 facteurs. Premièrement, les organes s'usent et les soins médicaux sont de plus en plus coûteux. Deuxièmement, le temps consacré à des traitements empiète sur les horaires de travail. Troisièmement, et les sociologues l'ont démontré il y a longtemps, si l'expérience compense pendant plusieurs années la baisse des facultés mentales, vient un moment où elle s'oppose à l'acceptation d'idées nouvelles. Au-delà de cette phase de l'existence que nous appelons le crépuscule de la flexibilité,
Un individu ne peut plus contribuer à la prospérité de la colonie. Ce sont les optimiseurs qui déterminent quand il convient de procéder à une élimination ?
Oui, mais je ne sais pas quels critères ils retiennent. Il y a une période probatoire. L'improductif est inscrit sur une liste d'attente et on lui accorde un délai pour tenter de redresser son bilan. Autrement dit, si j'ai bien compris les explications d'Archie, le solde entre ce qu'il apporte à la société et ce qu'il lui coûte. S'il est toujours négatif, la mesure est appliquée.
Comment réagissent les principaux intéressés ?
Voulut savoir Nicole. Elle frissonna en se rappelant ce qu'elle avait éprouvé après sa condamnation à la peine capitale.
La plupart reconnaissent le bien fondé de cette décision et se préparent à disparaître. Les autres sollicitent de l'optimiseur une nouvelle affectation qui leur permettra peut-être d'atteindre leur quota. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Hercule.
Pouvez-vous me dire ce qu'il est devenu ?
Il a été sévèrement réprimandé parce qu'il n'avait pas assuré correctement la protection de Nikki lors de la fête de l'abondance. On lui a accordé un transfert. Mais quand l'optimiseur des éliminations l'a informé qu'il lui serait pratiquement impossible de rattraper les points perdus suite à cette bévue, eh bien il a opté pour une élimination immédiate.
Nicole hoqueta. Elle revoyait Hercule jongler dans le cul-de-sac à la grande joie des enfants.
Il a été exécuté parce qu'il n'a pas fait correctement son travail. C'est vraiment trop cruel.
Elle se leva et remercia le docteur Bleu. Elle se disait qu'elle aurait dû se réjouir de la guérison de Richard au lieu de se tourmenter pour la mort d'un octopode. Mais l'image d'Hercule continuait de la hanter.
Ils sont trop différents. Nous ne devons pas les juger en fonction de nos critères.
Elle était sur le seuil quand elle pensa à Cathy.
« Docteur, »
dit-elle,
« je voudrais solliciter une faveur et je ne sais pas si je dois m'adresser à vous ou à Archie. Je ne sais même pas si c'est réalisable. Mais j'ai une fille qui vit toujours au Nouvel-Éden. Je l'ai entrevue dans une des scènes que le maître optimiseur nous a montrées le mois dernier. J'aimerais en savoir plus de choses sur son existence actuelle.